Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Une émission particulière ce soir par sa durée, en tout cas, puisque suite à un mouvement de grève dont on reparlera des techniciens de France Culture, cette dispute s'achèvera à 19h30. Autour de moi, ce soir, Anna Sigalevitch, Philippe Chevy et Jean-Christophe Brianchon, notre affiche, un sommaire réduit. Nous parlerons plus vite que d'habitude de The Way She Dies, des TG Stan et Thiago Rodriguez au Théâtre de la Bastille, Orlando, de Virginia Woolf, mise en scène Cathy Mitchell, à l'Odéon, et puis... un condensé de votre critique à propos du spectacle Tarquin de Jeanne Candel, Florent Hubert et Aram Kebadjian. Nous ouvrons cette dispute avec The Way She Dies de TG Stan et Thiago Rodriguez, un spectacle forcément attendu, très attendu, puisqu'il associe le formidable collectif flamand et le génial metteur en scène portugais et auteur en scène portugais, ça c'est moi qui parle, hein, quand je dis génial et formidable.
Dans le dossier de presse.
Non, ah bon?
Non, je plaisante.
Non, il ne marque pas ça dans le dossier de presse, vous savez bien que je ne les lis pas en plus.
C'est une plaisanterie.
Anna, c'est le moment de faire des plaisanteries. On rappellera pour l'occasion que Thiago Rodriguez a fait ses premières armes de comédien avec le TG Stan, c'était en 1997, ça ne date pas tout à fait d'hier, c'est du côté de Toulouse. Ils se retrouvent donc en mariant leurs talents et leurs interprètes pour une relecture d'Anna Karénine de Léon Tolstoï qui sert à la fois de modèle et de miroir au personnage. Sur scène, premier tour de table, pas d'extrait hein, ce soir, on va aller à l'essentiel. Un premier tour de table pour résumer votre impression, Anna Sigalevitch.
Je suis d'accord avec vous, c'est un génial metteur en scène et c'est pour moi un spectacle d'une sensibilité et d'une intelligence magnifique.
Philippe Chevillier.
C'est un magnifique chassé-croisé amoureux, géographique, littéraire et théâtral.
Et Jean-Christophe Brianchon.
Mais on ne va pas être tout à fait d'accord alors, puisque j'ai trouvé la proposition peut-être un petit peu flémarde sur le plan de la mise en scène.
Flémarde, c'est le mot. Toute petite description de l'espace de jeu, Anna Sigalevitch.
Toute petite description, on a un fauteuil qui est un confident, c'est-à-dire un double fauteuil qui est à l'avant-scène. On a en fond de scène comme une cuisine avec une table, des chaises, etc. On a un grand panneau au fond bicolore avec en haut du bleu canard et en bas du bleu pétrole qui est prolongé par une verrière. Qui couvre un petit peu, qui prolonge ce grand panneau avec quatre lampes suspension boule, et puis on a une grande machine rouleau, et puis voilà, c'est une scénographie qui est assez simple, comme toujours avec et les TG Stan et Thiago Rodriguez.
Alors quand on voit le programme Philippe Chevillier, on voit The Way She Dies, comment est-ce que c'est marqué, d'après Tolstoï, qu'est-ce qui a marqué texte Thiago Rodriguez, librement inspiré d'Anna Karenine de Léon Tolstoï. Il faut quand même expliquer que c'est très librement. C'est quoi le parti pris?
Oui, c'est une adaptation très libre, puisqu'on se souvient qu'avec Bovary, il y avait quand même...
Précédent spectacle
de Thiago Rodriguez. On rentrait par le procès de Flaubert, et du coup, on était très vite dans les personnages. Là, il y a une petite interrogation au départ. On a deux couples, un couple du Nord, un couple du Sud, qui sont en train de se déliter et qui ressemble quand même, leur histoire ressemble surtout le premier, celui du Nord, un peu à l'histoire de d'Anna Karenine qui quitte son mari pour son amant Vronsky. Mais c'est quand même assez lointain et en fait ce qui va faire que on rentre dans l'œuvre, c'est que les deux couples vont finalement être en communication avec cet ouvrage. Le premier, le couple du Nord, c'est parce que Frank Verquisson, donc qui est le mari trompé, va lire l'ouvrage que lui a laissé sa mère en héritage avec des passages surlignés et se dire c'est peut-être dans ce livre que je vais trouver dans Anna Karenine que je vais trouver la solution à mes problèmes de couple. Et dans l'autre couple, on a qui est lui couple portugais, on a la jeune femme qui ne sait pas encore que son couple va très mal, mais qui s'en doute, qui va apprendre le français à travers une traduction française d'Anna Karenine. Alors c'est tiré par les cheveux, mais ce qui est assez magnifique, c'est que finalement, on va rentrer dans cet ouvrage et de plus en plus dans le livre, et avec cette idée que sans doute Anna Karenine ne va pas aider, et surtout avec la fin du livre, le couple à se remettre, mais au moins que la littérature a une telle force et une telle puissance qu'elle elle peut éclairer la vie et donner un nouveau sens à la vie et par éclat. Et on entre dans l'œuvre de cette façon. Donc c'est assez magistral. C'est tiré par les cheveux, mais c'est assez magistral.
Bon, ce qui est déjà plus qu'une description, une critique. Assez magistrale. Ce sera dans le dossier de presse, le prochain. Du coup, je voulais commencer par Jean-Christophe Brianchamp, mais comme c'est celui qui a le plus de réserve, je vais le garder en réserve, pas pour longtemps. Anna Segalevich,
tout ce que vient de dire Philippe, parce qu'en effet, la littérature est à la fois un problème et une solution. La littérature dans un couple sépare, parce que la littérature est une arme aussi, c'est une bombe qui agit comme un révélateur. Et la littérature permet peut-être aussi de pouvoir réparer et renouer et rassembler peut-être un couple. Alors, c'est encore une fois vraiment une déclaration d'amour à la littérature, comme dans Bovary, comme dans By Heart, comme dans Antoine et Cléopâtre, enfin comme dans tous les spectacles de Thiago Rodriguez. Et en effet, cette littérature qui, à la fois, donc ça agit comme ça de façon en effet, comme Philippe le dit, éclatée, mais la littérature arrive quand on ne peut plus dire les choses. La littérature, à un moment donné, est une arme pour faire parler l'autre. Elle est aussi une façon de réfléchir et de savoir raison garder et de prendre le temps de la réflexion. Je ne te parlerai pas tant que je n'aurai pas terminé le livre, dit Franck Vercruissen à Yolande de Kersmaeker. Donc, voilà, il y a un peu toutes les fonctions de la littérature, à la fois problème, solution, médicament, enfin, bon, il y a beaucoup de choses. Moi, je dois dire que j'avais très très peur en allant voir le spectacle. Parce que, comme à la manière d'Anna Karenine qui dit « mais j'ai peur d'être heureuse parce que j'ai peur que ça s'arrête », eh bien j'avais peur, il y a tellement d'éléments qui me plaisent dans cette histoire entre les TG Stan, Thiago Rodriguez et Anna Karenine, je me dis « c'est horrible, je vais être déçue, c'est impossible ». Donc je suis allée, j'avais le trac en allant voir le spectacle. Et j'ai eu peur au début, je me suis dit « mais comment ça va prendre ?» Bon, j'y reviendrai, mais j'ai été enchantée vraiment de bout en bout, parce que ce qui m'a passionnée, c'est de voir, en effet, comme le dit Philippe, le couple du Nord et du Sud, de voir ces deux théâtres se rencontrer, l'affiliation. Enfin, il y a beaucoup de choses et je trouve que c'est un enchantement à la fois sensible et en même temps qui donne beaucoup de grain à moudre.
Jean-Christophe Brianchon, des réserves.
Oui, des réserves. Alors après, j'ai dit flemmarde, comme on le dirait d'un très bon élève qui peut se contenter d'avoir 19 sur 20 sans travailler et qui, on le sait, pourrait
toujours avoir mettre de l'eau dans son vin,
un peu plus. Mais c'est toute proportion gardée, parce que je l'ai même vu deux fois, une fois à la Création française à Arles et puis ensuite à la Bastille. Donc bon, c'est quand même un spectacle que j'apprécie. Ensuite, je pense que c'est un spectacle qui correspond très bien à ce qu'a déjà présenté Thiago Rodriguez, et de ce point de vue-là, ça me s'il faut émettre une critique, je trouve que c'est un petit peu problématique ce rapport à la littérature sur le plan de la mise en scène uniquement, parce que la dramaturgie est, je trouve, comme vous le disiez, assez brillante, assez bien amenée. En revanche, sur le plan de la mise en scène, je trouve que les quelques idées qui sont là et qui sont bonnes et belles sont des idées que malheureusement nous avions déjà vues. Alors je sais que c'est pas nécessairement un étalon de mesure, parce que tout le monde ne voit pas toutes les pièces de Thiago Rodriguez, mais malgré tout, pour ceux qui le connaissent assez bien, ces quelques idées-là sont reprises, entre autres pour ce qui est de son rapport à la littérature, ces feuilles de texte sur lesquelles marchent les comédiens sur le plateau, ce que je trouve être une très belle idée qui nous permet assez facilement de comprendre le rapport que Thiago Rodriguez entretient à la littérature et la place centrale qu'il lui donne. Ici encore, on l'avait vu chez Bovary, on le revoit ici, ces comédiens remarchent sur ces feuilles, sur ces manuscrits de littérature.
Mais on ne sait pas trop ce qui signe la mise en scène quand même, hein. Quand on lit précisément, hein. C'est un texte de Thiago Rodriguez, avec Isabelle Abreu, Pedro Gil, Jolante Garsmaker, Frank Bracosen, qui seraient plutôt tous les quatre responsables de cette mise en scène, me semble-t-il. Alors, nourris les uns et les autres de leurs propres travaux, et les deux comédiens portugais du travail.
Comment les TG Stan ont-ils été un peu plus infusés de la pensée de Thiago Rodriguez que l'inverse, je pense, en termes de mise en scène purement, hein, je pense que de mise en scène et de gestes scénographiques.
C'est une question qui se pose. Après, je pense que les acteurs sont quand même très responsables sur cette production de ce qui se passe sur le plateau.
Mais et par ailleurs, justement, d'autres remarques ou autres limites qui, selon moi, est celle de la pièce, c'est justement la présence de ces comédiens du TG Stan dans ce geste geste de Thiago Rodriguez, qui pour moi entre un petit peu en contradiction ou en tout cas en rupture avec avec la sentimentalité qui est celle de Thiago Rodriguez, par le jeu distancié, par cette sorte de sarcasme qu'il y a toujours dans les yeux de ces comédiens du TG Stade, qui existe tout le temps, qui a son intérêt, qui crée un décalage qui peut être intéressant, mais qui chez moi met des gens un petit peu quand il s'agit de la sentimentalité de Thiago Rodriguez.
Ouais, mais c'est là que ça frotte et c'est là que ça pourrait justement être intéressant. Moi, je suis pas absolument convaincu non plus par ce spectacle, je dois le dire. Enfin, je l'ai vu hier après-midi, donc ça n'a pas beaucoup infusé peut-être, mais sur le moment, en tout cas, il n'y a pas l'évidence. Moi, j'étais comme Anna Segalevich.
Vous aviez le trac.
Presque le trac. Et j'ai vraiment une passion pour, en tout cas, les trois interprètes que je connaissais. Je ne connaissais pas encore, je retrouve son nom, pardon,
Pedro Gil,
que j'avais... Bon, jusque-là, je crois jamais vu jouer, mais les trois autres, vraiment, je les trouve merveilleux. Je trouve que voilà, ça fonctionne pas toujours. Par moment, je trouve que le rapport entre les deux couples, dont on se dit que quand même la femme portugaise est la mère du Belge, hein, qui a des années qui sont séparées, parce que c'est le même livre qu'ils ont entre les mains.
Vous êtes dit ça, vous ?
Ah bah oui, ils ont le même livre entre les mains.
Mais écoutez, pour être tout à fait honnête, j'ai lu ça dans Le Monde parce que Fabienne Darche
le
dit, mais j'avais pas du tout compris que c'était.
J'ai
vu
encore
comme ça.
Lu les critiques, ce que je fais jamais avant les.
Donc vous, là, pour vous, c'était évident que c'était ça.
C'est le même livre.
Bon,
livre objet, je veux dire.
Peu importe.
Mais ça peut être l'amant aussi.
Mais vous voyez, justement, c'est bien là que c'est l'un des bas qui blesse. C'est justement que cette connexion, elle n'est pas si évidente, puisqu'on n'a pas tous vu ou compris la même chose. En tout cas, elle n'est pas très évidente. Elle est un peu trop artificielle pour moi. Moi, j'aime infiniment la langue de Thiago Rodriguez. Les monologues sont très beaux. Et je voudrais quand même souligner une très très belle idée à la fin, qui est cette confrontation, alors très étrange, entre les deux traduction de Madame Bovary, d'une part en portugais, d'autre part en flamand, sauf que nous on le lit aussi en français, donc on a toute la fin de d'Anna Karenine, pardon, est dit par les comédiens, les interprètes, et elle est traduite pour nous, spectateurs français, en surtitrage, et c'est très beau.
Philippe Chevillier. Elle est traduite après, c'est ça qui est magnifique aussi.
Ça c'est la toute fin, mais avant, il y a quand même tout un long passage où on a ça en même temps. Philippe.
Très vite. Moi, j'aime bien justement le côté froid et chaud des deux couples. J'aime bien qu'il y ait un peu.
Je sais pas qui est chaud, qui est froid, moi.
Mais enfin, c'est pour schématiser.
C'est ça qui est intéressant.
Oui,
aussi.
Oui. Mais je veux dire, les jeux, le jeu spontané de TG Stane, le jeu plus dans l'émotion qu'on connaisse, je trouve que ça fonctionne bien. La deuxième chose, c'est qu'il y a une image qui est peut-être, c'est peut-être TG Stane, celle-là, qui est celle du, où on fait un Akerenine à un moment donné, où il y a de la neige, où il y a puisque le décor, qui est d'ailleurs plus réussi que d'habitude, parce que chez Thiago Rodriguez, je suis pas toujours fan des décors. Je trouve que ce décor de gare est pas mal, enfin cette succession de la gare qu'il y a avec les boules justement est pas mal, et c'est vrai que moi dans un spectacle, quand j'ai une image aussi forte que celle de la fin qui nous mène vraiment dans le livre, dans la littérature, ça suffit pour mon bonheur.
Et on s'arrête là pour The Way She Dies, TG Stane et Thiago Rodriguez au Théâtre de la Bastille jusqu'au 6 octobre. Et puis on peut bien sûr retrouver le texte de Thiago Rodriguez sous le beau titre Sa façon de mourir, qui est publié comme tous les textes du dramaturge portugais aux solitaires intempestifs.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute express avec Orlando de Virginia Woolf, mise en scène. Cathy Mitchell, le roman de Virginia Woolf, pour rappel, met en scène le héros le plus fluide de l'histoire, puisqu'il est né noble anglais sous le règne d'Elisabeth Ier, qui devient subitement femme au XVIIIe siècle. On va le suivre, son histoire jusqu'au 11 octobre 1928, en tout cas dans le roman, parce que c'est la date de la publication du roman de Virginia Woolf. Orlando, à ce moment-là, le personnage est devenu une autrice à succès. Le récit, donc, dure 3 siècles. Et demi. Woolf elle-même considérait son texte comme un livret. Toute la question était de savoir ce que Cathy Mitchell allait en retenir, la façon dont elle allait le mettre en scène. Premières impressions, Philippe Chevillier.
J'ai trouvé ce spectacle fidèle au roman, chic et désincarné. C'est pour moi un exemple du théâtre qui est annihilé par le cinéma.
Jean-Christophe Brianchon.
Pour moi, c'était rien d'autre qu'une tentative formelle totalement désincarnée, comme le dit Philippe.
Anna Segalevich.
Alors, il y a une très bonne actrice, mais le spectacle est assez efficace, mais inoffensif.
Alors, on va expliquer pourquoi, Philippe. L'espace de jeu, surtout les parties prises formelles.
Alors, nous avons un écran au-dessus de la scène, qui est assez important, avec une cahute suspendue à côté.
Cahute. Moi, j'aurais dit une cabine, moi, mais bon.
Pour la récitante, ah, ouais. Oui, une cabine, c'est vrai. Il y a sur la scène, donc en dessous, quelques cloisons coulissantes, une fausse fenêtre, table, livre, enfin des accessoires dans la pénombre. 8 comédiens qui vont évoluer, entourés d'un aéropage de machinistes, de caméramans, un perchiste. On les voit pas beaucoup, tout ce petit monde s'agite côté cour et côté jardin. En habits d'époque diverses, ils changent très vite. Et tous, en fait, sont au service du film qui se déploie sur l'écran, avec donc une alternance de séquences film pré-filmées et de plans directs. Donc, en fait, ce qu'on très vite, au bout de pour dire très rapidement, au bout de 5 minutes, moi, je regardais plus ce qui se passait sur scène. Je regardais que l'écran parce que on voit pas grand-chose de ce qui se passe sur scène. Donc, c'est vraiment du cinéma en live, plus ou moins en semi-live.
Jean-Christophe Briançon sur l'adaptation. Alors là, on va reparler de la cahute, du coup, ou de la cabine.
Justement, c'est une adaptation qui est très particulière, parce que cette cabine permet donc à une narratrice de nous faire suivre le fil de l'histoire, d'une certaine manière, comme si Cathy Mitchell voulait affirmer son désir de coller à l'œuvre de Virginia Woolf et de nous faire croire, d'une certaine manière, qu'on allait entendre le livre de Virginia Woolf. C'est finalement pas du tout le cas, puisque l'adaptation est réellement beaucoup plus libre qu'il n'y paraît, et nous permet de nous éloigner de la tentative qui était celle de Virginia Woolf de faire de son livre un livre, on va dire, psychologique, ou en tout cas de s'éloigner de l'épique des faits pour nous rapprocher de la psychologie de ces personnages, puisqu'en dehors de cette narratrice qui nous fait coller au livre, sur scène le livre sera adapté de manière très très épique et cinématographique pour faire de ce roman un roman presque d'aventure, on va dire.
Allez, on part à Anna Sagalevitch pour quelques minutes ensemble, encore sur ce texte Orlando et cette mise en scène.
Bah sur le texte, je dirais que moi, je trouve que c'est une version courte, mais courte dans tous les sens du terme, quoi. C'est-à-dire que on a l'impression d'avoir un petit résumé du roman, mais où on perd le côté subversif qui est essentiel dans le roman. Il y a quelque chose de dangereux, il y a quelque chose qui frotte en permanence, il y a quelque chose de dérangeant. Et là, finalement, c'est-à-dire que la façon dont elle le fait entendre aujourd'hui, pour moi, c'est complètement consensuel. Et du coup, c'est tout de même problématique avec, en effet, ce problème majeur qui est la façon dont elle traite les images, donc le cinéma. Alors, je suis embêtée parce que pour moi, j'ai envie de dire, la pauvre, elle prend pour tous les autres. Parce que c'était, en voyant le spectacle, je me suis dit, là, c'est la goutte d'eau. C'est trop. Je n'en peux plus de ne pas voir des gens vivre sur scène. Alors que beaucoup de gens font ça.
Mais là, c'est quand même une façon extrême.
Extrême, où on est en effet la tête en l'air pendant tout le spectacle. Moi, par moments, j'ai refusé de laisser la tête en l'air et j'ai regardé, j'ai attendu de voir si ça vivait sur scène.
Ces instants-là sont assez fascinants. D'ailleurs, quand on baisse la tête pour regarder le plateau, c'est assez fascinant de voir justement le jeu de cette comédienne.
Parce que sur
le plan formel, il se passe des choses. Enfin, c'est d'une intelligence technique, on va dire.
Non, mais on sent que ce soit virtuose, qu'ils aient un cahier des charges.
Je suis assez d'accord.
Ils passent leur temps à courir, à soulever. Juste pour abonder en votre sens, Anna, sur le plateau et donc même à l'écran, je crois pas qu'il y ait une scène de dialogue qui dure plus d'une minute.
C'est ça.
Comment on peut exister
exactement
là-dedans?
J'ai exactement ce que j'ai écrit. C'est-à-dire qu'on a envie que les scènes vivent un peu, qu'elles se déploient un peu, et pas du tout. Et donc on n'a pas du tout le temps d'être avec les personnages, de laisser vivre les choses. Tac, 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 tac en permanence. Donc c'est une cavalcade rondement menée. Mais pourquoi?
Ouais, assurément montée. Philippe Chevillet.
Moi, quand je disais au départ que je trouvais ça fidèle au roman, c'était pour dire qu'on suit vraiment l'histoire et qu'on rajoute les années entre 1928 et aujourd'hui. C'est d'ailleurs peut-être la partie sur laquelle il y a des choses les plus intéressantes, à mon avis, où tout d'un coup, on voit justement notamment le rapport d'Orlando devenu femme avec un homme. Ça devient assez amusant à l'écran. Moyennant quoi, le problème de base, c'est le fait qu'il n'y ait pas de dialogue entre théâtre et cinéma. Parce que même chez Van Hove ou Cyril Test, vous avez un dialogue entre... Vous voyez des gens qui font des choses et vous les voyez ensuite à l'écran.
Ça joue sur le plateau.
Ça joue sur le plateau.
Se nourrissent.
Et là, ils jouent.
Ils font un livre d'images. Ce n'est pas tout à fait le même projet.
Mais ils jouent uniquement pour être filmés. Et ça tue totalement l'émotion. Et du coup, le propos... qui était un propos en or pour Cathy Mitchell, qui est quand même une féministe engagée sur le féminisme.
Mais justement, ça devient quelque chose de tellement convenu.
Bah oui,
ça coche toute la case.
J'aurais enlevé venu, moi, à votre. Je peux citer juste un exemple d'une chose qui me paraît bête. Moi, je crois que vraiment Cathy Mitchell a un problème de lecture, c'est-à-dire que faire ces anachronismes dans un roman comme Orlando, c'est c'est une bêtise sans nom, puisque justement, Orlando, il part de, donc du 17e, il arrive à nos jours. Pourquoi mettre des coups de téléphone ou je ne sais quoi, ou de la musique qui est hier en 1712? C'est idiot, parce qu'on n'a pas du coup cette progression historique qui est quand même un des sujets aussi du livre. Donc c'est une stupidité de plus, ça fait gadget, ça fait moderne, donc voilà, j'enlève venu. Philippe Chevillier.
Et donc la voix off n'arrange rien, puisque on a donc le théâtre doublement bridé, à la fois par le cinéma et par la lecture. Et encore une fois, moi je pense que quand on arrive à se dire finalement, oui, le film, bon, il se regarde, il y a une virtuosité, tout ça, mais quand même, c'est moins bien, évidemment, que du cinéma, et qu'il n'y a plus de théâtre. Moi, j'ai eu un sentiment qui était assez amusant, enfin, si je puis dire, c'est qu'au moment des saluts, tout d'un coup, j'ai eu de l'émotion parce que j'ai vu les acteurs et je les ai vus
qui vivaient. Ils se donnent, ils ont une partition scénique d'une exigence
et avec
folle,
avec les
techniciens.
Avec des acteurs
super
de la
bons acteurs.
On peut estimer que c'est des très bons
acteurs.
On l'a
vu, cette Orlando, il y a peu de temps, on la verra bientôt aux Gémeaux. C'est une actrice merveilleuse.
Jenny Koenig, elle est formidable. C'est une sorte de petit lutin androgyne.
J'aimerais bien savoir combien de lignes de texte elle a sur 2 heures de spectacle. Ça ne doit pas être lourd, hein, parce que franchement, on l'entend.
Ça ne doit pas être lourd, mais elle existe quand même sacrément, je trouve. Et il y a quelques moments...
Parce qu'elle est de tous les plans.
Ah ouais, mais elle est subtile. Elle prend tout ce qu'il y a à prendre. Franchement, elle fait feu de tout bois. Elle a que des toutes petites brindilles. Et elle arrive quand même à les faire... prendre vie.
Il y en a une qu'on peut trouver formidable, je vous redonne la parole, Philippe Chevillier, c'est la narratrice. Oui. Parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Parce que
dans sa cahute
ou dans sa cabine, je pense qu'elle a 95% du texte du spectacle et elle est impeccable d'un tout l'autre. Et il y a évidemment des petits moments de jeu caméra aussi, parce qu'il y a une caméra dans sa cabine qui ne sont pas les plus heureux. Elle est extraordinaire. Pardon, Philippe.
Juste pour dire que sur, par exemple, Julien Gosselin, dont les spectacles peuvent être entièrement, presque, enfin en grande partie du cinéma, on a une mise en scène opératique et on a des moments où les comédiens sortent chez
Castor. C'est une autre façon de faire advenir le théâtre.
Et voilà, le théâtre advient d'une autre façon, alors que là, il est tout au service d'un écran et de façon en plus. Alors pour le coup, on va pas. Mais ça fait quand même 2 ou 3 fois qu'elle fait le
même dispositif. On pourrait mettre un rideau en bas et on verrait que le film, mais ça s'appellerait du cinéma.
Julien Gosselin avait un peu fait ça dans la première partie.
Mais première partie, justement, quand les comédiens adviennent sur le plateau, c'est un événement.
Avec un jeu différent. Avec un jeu des écrans, la musique.
Qu'elle pioche un peu partout, chez Guy Cassirs, chez Gosselin, je pense pas, mais en tout cas chez Ivo Vanov. On a l'impression que tout est pioché, mais qu'elle n'en fait pas quelque chose de personnel. Le problème, c'est que pour moi, il n'y a pas de forme personnelle qui est proposée ici. Et Castor, non, par exemple, les frères Karamazov, il avait complètement vidé la scène de tout jeu, mais c'était là pour le coup, il y avait une vraie radicalité. Ouais, moi, le spectacle m'avait énervé, mais il était radical et il était subversif.
Alors que là, on est. Voilà. Elle coche les cases. Bon, on n'est pas convaincu par Orlando. D'après Virginia Woolf, mise en scène de Cathy Mitchell, c'est au théâtre de l'Odéon jusqu'au 9 octobre.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Il aurait dû avoir un troisième spectacle en débat, nous lui faisons une petite place, désolé. Il s'agit de Tarquin, qui se présente comme un drame lyrique pour chanteur, comédien et orchestre de salle de bain. Jeanne Candel signe la mise en scène, Florent Huber la musique, livret d'Aram Kebadjian. Petite phrase chacun pour résumer ce que vous auriez dû développer ce soir, Jean-Christophe Brianchon.
Alors s'il faut être court, moi je dirais comme à l'habitude avec Jeanne Candel et son collectif que c'était un moment très doux et très beau, peut-être inachevé parce que tenant trop à l'idée, tenant trop à son idée plus qu'à sa réalisation, mais malgré tout un moment très de théâtre très agréable.
Anna Segalevitch.
Alors, c'est pas évident parce que j'aime beaucoup leur travail, j'aime beaucoup ce qu'ils tentent de faire. Là, pour moi, il y a des petits problèmes dramaturgiques, mais il y a le début d'une recherche que je trouve très, très intéressante entre texte et musique, entre glissement de l'un à l'autre, où elle va, à mon avis, plus loin et elle est en train de creuser un nouveau sillon que je trouve vraiment très intéressant, avec toujours des acteurs et, je dirais, acteurs, musiciens, enfin, tous des interprètes qui sont absolument formidables. Donc, je trouve que c'est un spectacle intéressant.
Philippe Chevillier, sur Tarquin.
Eh ben, Tarquin et Jeanne dans la jungle, pour moi, c'est une jolie variation lyrique, poétique et drôlatique sur la figure du mal. On a à la fois la tragédie et du comique, et avec une Jeanne Candel que je retrouve, moi, plutôt à un haut niveau de créatif, même si encore pas mal de choses à régler dans le spectacle.
J'ai compris la blague, hein. Tarquin et ouais, Jeanne.
Elle est bonne.
Elle est très très bonne. Tarquin, c'est jusqu'au 6 octobre au Théâtre de Montreuil, au Nouveau Théâtre de Montreuil, et puis ce sera à Lorient, 9 et 10 octobre, au Grand Thé à Nantes du 16 au 18, du 26 au 28 à la Comédie de Valence, ça c'est en novembre, pardon, 6 et 7 février à Caen, et 13 et 14 février au CDN Orléans, Centre Val-de-Loire. Le jeu de la dispute, et on va directement au jeu du soir. Ce soir, on fait gagner des invitations pour aller voir le film Ne croyez surtout pas que je hurle de Franck Beauvais, qui est en salle ce mercredi. Quelle est la question, David Dana, qui nous a rejoint?
Pour quel groupe de musique Franck Beauvais a-t-il réalisé un clip?
Votre réponse, c'est que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et David Dana. Prise de son ce soir, Jordan Fuentes. Réalisation, Alexandre Fougeron. Et on est très heureux d'avoir une heure. Tous les soirs, on s'en rend encore mieux compte. On se retrouve demain à 19h pour une dispute musique avec Clémentine Goldson, Mathilde Serrel, Hugo Cassavetti. On parlera des disques de L'Épée, de Liam Gallagher, de Rachita et de Taylor Swift.